Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de notre magazine Destination Haute-Provence proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, merci d'être avec nous pour ce magazine particulier qui est réalisé en collaboration avec nos amis de DLV Agglo et précisément l'Office de Tourisme. Nous allons parler des artisans et de certains artisans qui sont aussi des artistes. Ils sont le reflet d'un territoire et leur service comme leur talent est indispensable à l'heure de la mondialisation galopante. Les artisans d'art ont une place à part dans le domaine de l'artisanat. Aux côtés de leurs collègues du bâtiment ou des métiers de bouche, si nécessaire, eux apportent créativité, originalité et sensibilité et un amour de leur métier passion. Dans le cadre du magazine Destination Haute-Provence que Fréquence Mistral réalise en collaboration avec l'Office de Tourisme communautaire de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, nous allons faire un focus sur ces artistes artisans. Nous irons à Valensole, Montagnac et Manosque à la rencontre de professionnels attachants, marqueterie sur pierre, verrerie d'art ou cordonnerie traditionnelle. Ils contribuent de belles manières à faire vivre leur art et leur territoire. Et puis en plateau, nous évoquerons le rôle de leur chambre consulaire avec Noël Dupas et la place de l'artisanat d'art dans celle-ci. Invité également un céramiste, Guy Mombel, également producteur de safran à Esparron de Verdon et membre des artisans sans vitrine. Artisans, artistes, c'est le thème de notre magazine. Bonne émission. Et nous ouvrons ce magazine avec Noël Dupas, que je remercie d'être avec nous. Bonjour Noël.
Bonjour.
Vous représentez la Chambre de métiers de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence, une organisation consulaire qui regroupe 6700 ressortissants dans différents domaines. Quelle est la place de l'artisanat d'art dans votre chambre et sur le département des Alpes de Haute-Provence ?
Alors, les artisans d'art sont une place importante chez nous depuis quelques années, puisqu'il y a de plus en plus d'artisans d'art qui s'immatriculent. Ça représente 12% au niveau des Alpes de Haute-Provence sur la totalité des entreprises.
Avec, je suppose, une variété de propositions.
Tout à fait. Vous avez le potier, vous avez le céramiste, vous avez l'ébéniste, vous avez le vitrailliste, les bijoux. Le recyclage se fait beaucoup actuellement, vu que c'est une action que mène la Chambre des métiers, hein, puisque zéro déchet. Donc nous avons beaucoup d'artisans d'art qui s'immatriculent dans tout ce qui est fabrication de sacs avec des tissus recyclés.
Avec certainement du savoir-faire aussi. On va en parler, on a trois artisans qui vont en parler, et puis un autre en plateau qui nous dira, qui nous donnera son avis. Vous êtes, on va dire, une pièce maîtresse de la Chambre de métiers et de l'artisanat depuis déjà pas mal d'années, on taira le nombre. Vous avez vu grandir l'artisanat d'art dans le département.
Oui, et puis je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se diversifient et qui viennent vers les métiers d'art. Ils aiment travailler de leurs mains et depuis des années que je les suis, je trouve que on rencontre des gens merveilleux et avec une créativité impressionnante.
Quels sont les services que vous leur apportez à ces jeunes et à ces artisans ?
Alors nous, on les accompagne de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise. Donc on a plein de services au niveau de la Chambre de métiers qui est gratuit. Donc il y a le déclic commercial parce que c'est un peu leur problème, c'est arriver à commercialiser leurs produits qu'ils fabriquent de leurs mains. On a le déclic numérique aussi pour les aider à se lancer dans tout ce qui est numérique parce que ceux qui ont quelques années, c'est un peu compliqué pour eux d'arriver à vendre sur Internet. Et puis d'autres, le déclic gestion aussi qu'on peut accompagner. Et quand ça fait quelques années, ils sont dans leur entreprise, ils ont du mal un petit peu à sortir un peu la tête de l'eau et on est là pour les accompagner, faire un diagnostic d'entreprise et trouver des solutions avec eux.
Notamment sur la gestion, je suppose.
Oui.
Et en termes de formation, comment ça se passe quand on est artisan et qu'on a une idée géniale qu'on porte et qu'on veut créer sa société?
On a un catalogue de formation, donc c'est plutôt ciblé pour les entreprises qui sont déjà immatriculées, mais on peut les accompagner à trouver des écoles, justement, pour se former.
Dans leur domaine spécifique.
Dans leur domaine, tout à fait.
Alors, vous restez avec nous, Noël. On va parler avec vous tout à l'heure de l'artisanat d'art. On va encore en parler, bien sûr. Mais je vous propose tout d'abord une interview, la première interview que nous allons écouter. Nous allons à la rencontre d'une artisane exceptionnelle. Ils ne sont que trois en France à faire son métier et ses deux autres collègues étant à Paris. Sylvaine Gorgot, elle, habite et vit à Valensole. Elle est marqueteur de pierres dures. Habile et créative, elle travaille sur commande, souvent pour du sur-mesure, et favorise des réalisations originales et en finesse. Rarissime et spectaculaire, son travail est très spécial, parfois même confidentiel. C'est ce qu'elle explique au micro d'Olivier Mouly.
Je suis marketeur de pierres dures. C'est un métier très rare. On est a priori trois ateliers en activité en France, dont un dans le 04. Voilà, les deux autres sont sur Paris.
La marqueterie, on pense au bois.
Traditionnellement, historiquement, on connaît bien le bois. La pierre y est aussi, simplement, c'est une histoire qu'on a un petit peu oubliée. Il existait à la Renaissance l'atelier des Gobelins. On parle beaucoup de cet atelier au niveau des tapisseries. Mais il existait aussi un atelier de pierre dure à l'atelier des Gobelins.
Pour le bois, ça peut être décoratif, c'est des meubles. Et pour la pierre?
Alors, en fait, c'est à peu près la même chose. Vous allez faire des tables en mobilier, beaucoup. Je travaille pour des décorateurs, des belles maisons de décoration, sur des projets plutôt confidentiels, sur lesquels je n'ai pas le droit de communiquer. Chez eux, c'est toujours du mobilier et des tables. Après, il y a une partie tableau, puis une partie plus créative. La partie tableau, c'est ma partie personnelle, où on retrouve l'inspiration, on va dire miniature persane, arabe. Asiatique, Japon, Chine. Je suis très inspirée par l'art asiatique en général. Alors, la particularité de mon travail, c'est que je travaille beaucoup sur de la finesse. Je ne cherche pas à couvrir de grandes surfaces. Je ne cherche pas à faire forcément de très grandes tables, très fouillées, qu'on peut retrouver dans l'esprit indien ou italien avec des oiseaux, des fruits, des fleurs très très fouillées. Je fais des petits oiseaux parce que je trouve ça amusant. Je fais des insectes, donc des petites choses comme ça. Mais ça reste presque anecdotique dans le sens où ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de faire des belles pièces ou de travailler pour des décorateurs. Alors en ce moment, je suis en train de développer pas mal d'échantillons, mais toujours dans le petit et dans la finesse. Dans le temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de diminuer de plus en plus.
Les surfaces.
Les surfaces, voilà. Donc je suis passée aux loupes pour grossir, pouvoir effectivement effectuer un travail de plus en plus fin et petit. Bon, la taille montre, c'est le maximum, j'allais dire, parce qu'après, puis il faut quand même un peu de matière, sinon esthétiquement, je trouve qu'on ne s'y retrouve pas. Puis après, techniquement, on est toujours sur quelque chose de plus compliqué que le bois. Sur le bois, on va avoir des épaisseurs très très fines. Dans la pierre, évidemment, on ne peut pas avoir d'épaisseur très fine. On est forcément sur du minimum 2 mm, 3, 4, 5 mm, voire plus. Ce qui signifie aussi que ça complexifie le travail et la pose. Quand vous allez devoir ajuster deux morceaux qui sont plus épais, forcément, il faut biseauter, il faut pas mal réajuster tout ça, travailler énormément en finesse. L'autre grande difficulté de la marqueterie de pierres dures, c'est qu'on travaille des pierres de couleur. Donc les pierres qu'on dit fines. Alors pour vos auditeurs, ce sont les pierres dites semi-précieuses. Normalement, on a supprimé ce terme de semi-précieux parce qu'il y avait une confusion entre précieux et semi-précieux. Les pierres précieuses sont le diamant tout en haut, c'est la pierre la plus dure, hein, le diamant, le rubis, saphir, émeraude. Ces pierres-là, ce sont des pierres que je ne travaille pas.
Quelles sont-elles, ces pierres fines ?
Alors, toutes ces pierres-là, on les connaît déjà, puisqu'on a déjà pas mal de bijoux donc, qui sont avec ces pierres-là. Les plus connues, c'est le lapis-lazuli, l'œil de tigre, le jade, les jaspes. Sodalite, améthyste, toutes ces pierres-là.
Techniquement, comment procédez-vous ? Vous assemblez des morceaux, vous gravez ?
On part de blocs de pierres. Là, je parle vraiment pour les pierres fines. C'est des petits blocs. Alors, c'est des blocs de 5, 3 cm à 15 cm. Après, ce n'est pas des blocs non plus gigantesques. On est quand même dans des pierres qu'il est parfois difficile à obtenir, qui ont une valeur relative. Ce n'est pas ce qui va faire la valeur in fine, parce qu'il y a beaucoup la question, oh là là, pierre semi-précieuse, pierre fine, oh là là, c'est très cher. Et beaucoup de valeur. Non, ce qui fait véritablement la valeur, c'est pas tellement les pierres. D'ailleurs, dans la joaillerie, c'est un petit peu la même chose aussi, bien que eux arrivent à des prix absolument astronomiques. Le marketeur, lui, va pas forcément travailler des pierres très chères. Ce qui va faire la valeur, c'est lui qui va donner la valeur. De toute façon, c'est la valeur du travail de l'artisan qui va donner la valeur de la pièce et la valeur des pierres, presque. Qu'on peut tout à fait gâcher une belle pierre et on peut la magnifier. L'idée, c'est toujours de faire quelque chose de plus en plus poussé, arriver à mettre en valeur une matière qui est une très belle matière. J'ai parfois même de la peine sur certaines pierres à me dire que je vais les mettre en pièces.
Est-ce qu'on peut voir justement vos œuvres quelque part ? Vous avez un site internet où il y a des photos, on peut voir ça ?
Alors, le site internet est en construction, donc il va falloir être un petit peu patient parce qu'il va mettre un petit peu de temps avant de renaître. Il y a le compte Instagram que j'alimente régulièrement avec les dernières créations. Vous tapez Gorgo, G-O-R-G-O, tiré du 8, Sylvaine, S-Y-L-V-A-I-N-E. Je suis aussi très présente sur LinkedIn et un petit peu sur Facebook. Pareil, vous tapez mon nom et vous allez retrouver ce travail-là. Si des personnes veulent faire un petit cadeau, il faut savoir que chez moi, une pièce en dessous de 150 €, je ne fais rien, puisque j'ai au moins, au minimum, 30 € de un peu de matière ou un cadre ou quelque chose. Donc 150 €, c'est un minimum, mais avec un petit budget de 150 €, on peut faire. Je vends régulièrement des petits scarabées porte-bonheur, des choses en lapis très jolies, très fins, et qui surprennent les gens et qui surprennent les personnes qui vont recevoir ce cadeau-là.
On peut les trouver en boutique ou uniquement?
Alors non, il n'y a pas de boutique parce que j'ai toujours beaucoup de mal, je fais beaucoup de choses. Et puis je produis très peu, c'est que de la pièce unique. Soit on me retrouve en salon, on s'inscrit sur la newsletter pour savoir ce qui se passe. Soit on prend rendez-vous directement, on vient à l'atelier si on a un projet quelconque.
Ça on peut le faire?
Ça on peut le faire.
Vous avez un téléphone?
Oui, je vais vous donner le téléphone. Donc c'est le 06 83 14 11 67. En fait, nous sommes une entreprise. On a regroupé deux activités, celle de mon compagnon qui est maçon et la marqueterie de pierre. Donc, on est un peu des hybrides étranges. On a la culture de la décoration et de la maison, puisqu'on a fait nos maisons, on fait les maisons des autres. Enfin, de temps à autre, des gens nous demandent de faire de la marqueterie, un petit quelque chose dans leur salle de bain ou qui cherchent un artisan pour poser une salle de bain. Enfin, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, il faut savoir que ça existe et que vous pouvez avoir un petit quelque chose, une petite marqueterie avec des budgets. Là, les gens me donnent un budget. Ils me disent, voilà, moi j'ai 500, moi j'ai 1000, moi je veux bien aller jusque-là. Des fois, les gens ne savent pas, ils n'ont aucune idée. Et à ce moment-là, en fonction, bon, j'aime ça, allez, je vous fais une petite proposition de dessin et avec des couleurs. C'est l'avantage du sur-mesure et de travailler avec un artisan. Voilà.
Sylvaine Gorgo, marketeur de pierres dures. On imagine bien l'originalité de ce métier. Noël Dupas, vous avez beaucoup d'artisans très particuliers comme Sylvaine à la Chambre des métiers.
Alors, on en a quelques-uns, oui, bien sûr.
Hein. Oui. Donc, surtout,
moi, il y a une personne qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, c'est Étienne Franzac. Il fait des mini-voitures de collection en bois avec un petit moteur électrique. Donc, il commence à vendre dans le monde entier puisqu'il a fait une voiture qu'il a vendue sur Monaco et sur les Émirats arabes, en Suisse et tout. Et il est basé à Saint-Vincent-les-Forts.
Le Grand Prix de Monaco, vous vous rendez compte, en voiture fabriqué. À quel endroit il est artisan ?
À Saint-Vincent-les-Forts, en dessus Seine, dans le 04.
Et puis il y a d'autres artisans aussi, je suppose, parce que là c'est une idée vraiment très très originale et particulière. Il y a d'autres artisans aussi qui ont des idées assez, on va dire, presque fantasques et en même temps magnifiques.
Oui, on a une jeune artiste aussi, moi je l'appelle artiste parce qu'elle fait des meubles en bois et en métal. Elle prend un tronc et elle fait un meuble sans colle et sans vis, donc des trucs magnifiques. Et ils ont exposé au Grand Salon du Carrousel à Paris au mois d'octobre.
Son nom.
Alors c'est Béatrice Charouin, elle est d'Aiglun.
Très bien, on la salue parce que bon, franchement, ils ont beaucoup de talent, les artisans d'art. Alors je vous propose un deuxième reportage dans notre magazine. Partons à la rencontre d'une autre artiste, c'est Aurélie Barraud-Micheletta. Elle travaille le verre. Sa boutique est à Moustier-Sainte-Marie et son atelier de fabrication est situé à Montagnac. Elle se définit comme créatrice et restauratrice car son activité est très étendue. Elle réalise aussi des bijoux en verre que son conjoint dessine et qu'elle fabrique. Ils sont en vente dans sa boutique de Moustier où Aurélie sera présente évidemment pendant cette période de fête. Olivier Mouly lui a rendu visite.
Aurélie Barraud Micheletta, vous avez un atelier à Montagnac et une boutique à Moustier. Quel est votre métier ?
Je suis artisan d'art, artisan des métiers d'art. Moi, mon métier, la dénomination concrète de mon métier, c'est maître verrier. Maître verrier, c'est essentiellement le travail du vitrail en création et restauration, le travail du verre plat.
Votre spécialité au départ, c'est le vitrail. Vous avez fait vos études à quel endroit ?
J'ai fait mes études à l'ENSAMA Olivier de Serres à Paris. Donc un DMA, décor architectural, spécialité vitrail.
Vous avez des créations que vous proposez au public, alors de quoi s'agit-il ?
Alors, création, il y a plusieurs volets. Je travaille essentiellement le vitrail en conservation, mais la création, c'est essentiellement sur commande pour du vitrail contemporain, pour des particuliers. De la sculpture également, donc là avec des techniques qui sont des techniques parentes, qui sont plutôt de la fusion et de l'inclusion. Et troisième volet qui est essentiellement présenté à la boutique de Moustier, c'est la création de bijoux.
Bijoux en verre, évidemment.
Oui, bijoux en verre, en inclusion des mots.
La conservation, pour qui travaillez-vous ? Des églises,
Oui, ce sont des commanditaires publics, généralement des collectivités locales, pour de la restauration essentiellement 19e, puisque c'est du petit patrimoine bâti qui est non classé et qui nécessite au 20e et au 21e siècle une restauration.
On ne peut pas intervenir sur le patrimoine classé ?
Si, on peut intervenir, mais dans ce cas-là, ça se fait d'une façon très encadrée et heureusement avec des ateliers qui ont un agrément monument historique.
Alors, est-ce qu'on peut voir votre travail en dehors de votre boutique, justement les vitraux ?
Tout ce qui est pièces d'art, généralement, c'est des commandes spécifiques, des commandes de particuliers, donc je ne suis pas vraiment diffusée.
Est-ce que vous avez des exemples à donner d'endroits où vous avez travaillé pour les vitraux, pour la conservation ?
Justement, en ce moment, on finit le chantier de restauration des vitraux de Montagnac, ce qui est quand même très pratique. Donc, qui avait un patrimoine verrier fort modeste et en très mauvais état, mais d'une grande qualité picturale, avec une baie 19e qui était bien triste et qui avait vraiment besoin d'une restauration urgente. Donc là, l'oculus a été remis en place et on va attaquer la seconde partie du chantier en début d'année.
Alors, vous dites « nous », quelle est l'autre partie de ce « nous » ?
C'est forcément mon binôme et époux qui m'aide dans mon travail, forcément.
On peut donner son prénom.
Luc.
La boutique de Moustier, vous êtes ouverte toute l'année ?
Non, je ne peux pas être partout et tout le temps. Donc, j'organise mon temps dans un temps de production d'atelier la moitié de l'année. Et l'autre moitié de l'année, la belle saison, j'ouvre la boutique au public tous les jours, de Pâques à Toussaint à peu près.
Et qui trouve-t-on dans cette boutique ?
Eh bien, essentiellement les collections de bijoux, des inclusions des mots et du bijou verrier.
Très coloré. Hein.
Oui, très coloré. Très coloré.
Vous utilisez comment ça se passe ? Des pigments, comment travaille-t-on le verre ?
C'est un travail de fusion et d'émaillage. En fait, c'est une technique un petit peu hybride que l'on a mis au point au fur et à mesure dans notre atelier, qui conjugue en fait des techniques traditionnelles de peinture sur verre et d'émaillage avec des techniques contemporaines de fusing, de fusion.
Donc vous travaillez aussi près de la chaleur, j'imagine ?
Ah ben, enfin, on est au four. On est au four la moitié de l'année et à la boutique l'autre moitié.
Tous ces bijoux, vous les dessinez auparavant ?
Oui, ouais. Oui. Là, pour le coup, c'est mon mari qui fait pas mal le design des bijoux et moi qui m'occupe plus du décor et de la couleur. C'est pas très évident d'un point de vue radiophonique de décrire quelque chose qui est éminemment visuel.
Il faut passer en fait.
Oui, il faut passer. Il faut passer me voir. Oui, essentiellement mon travail en création, ça s'articule toujours autour d'un travail assez figuratif, autour du nu et du travail de la matière, avec une approche un peu académique et traditionnelle, mais dans des techniques contemporaines. Pour le bijou, on n'est pas du tout dans cet axe figuratif, mais plutôt un travail de la couleur. Vraiment de la couleur par cette inclusion des mots qui donne des couleurs extrêmement fortes et contrastées, ce qui n'est pas l'habitude dans le bijou verrier.
Alors, si on souhaite vous contacter ?
Si on souhaite me contacter, déjà via mon compte Instagram, Verrier d'art au pluriel, c'est là que j'interagis le plus. Et Aurélie Barraud-Micheletta, de toute façon, on me trouve assez facilement. Après, on a un site internet, une petite boutique en ligne pour les bijoux, verrierdart.com.
Verrierdart.com, tout ouais. Attaché en minuscule.
Ah, tout attaché en minuscule et au pluriel.
Enfin, Aurélie Barraud-Micheletta, nous sommes en période de fête. Vous allez ouvrir donc pendant les fêtes ?
Oui, chaque week-end. Chaque week-end avant Noël, dans le cadre du projet Décembre à Moustier. On garde la boutique ouverte les samedis et les dimanches après-midi.
Les horaires ?
13h30, 17h. Chaque samedi et chaque dimanche.
Donc à Moustier, c'est facile à trouver ?
Non, c'est pas facile à trouver. Si, sur la place principale, en fait, sur la place Paumet, là où se trouve la maison Bondil, la place au-dessus de l'église, dans le prolongement de la rue de la Diane, hein, c'est Verrier d'art, la petite boutique orange.
Un petit jeu de piste à Moustier-Sainte-Marie, ça fait pas de mal non plus, et surtout en période de fête. N'hésitez pas à rendre visite à Aurélie Barraud, Micheletta. Et quand on dit Moustier, ben on pense bien sûr faïence et céramique, et ça tombe bien. Notre invité suivant est céramiste. Bonjour Guy Mombel.
Bonjour.
Vous êtes installé à Esparron de Verdon. Parlez-nous de votre métier.
Alors, mon métier, ce sont deux métiers, finalement, qui gravitent autour de la terre, de l'élément terre. Donc, un premier métier, la terre argile, c'est le métier de potier céramiste. Et ma seconde activité, c'est la terre nourricière, la terre que l'on cultive pour la culture et la production de safran.
C'est une activité complémentaire ? Comment vous pouvez définir ça ?
C'est ça, c'est une activité complémentaire qui intervient en fin de saison d'été lorsque les sorties sur les marchés et les foires commencent à diminuer. Donc c'est la période de récolte de cette précieuse épice.
Oui, c'est la plus précieuse épice au monde, hein, vous le savez.
Oui, je le sais.
Vous l'avez choisi pour ça.
Et je le vis depuis bientôt 16 ans.
Très bien, très bien. Comment est-ce que vous vendez votre production, que ce soit le safran ou bien la poterie, la céramique ?
Alors, essentiellement en direct, sur les foires, sur les marchés. Et j'ai deux boutiques sur Quinçon concernant la partie céramique. La première, elle se situe au musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Et la seconde, elle est un peu plus haut, c'est René Boutique dans la rue de Montméan.
Est-ce que ça fonctionne bien ?
Oui, ça va.
Il y a du passage, je suppose, au musée et dans les rues à Quinçon.
Oui, il y a du passage. Et puis, la céramique que je propose à la boutique du musée de Quinçon, elle est un peu spéciale. Ce n'est pas celle que je propose sur les foires et marchés. Ce sont uniquement des reproductions et des inspirations d'objets préhistoriques, notamment des céramiques qui ont été trouvées dans les fouilles des Gorges du Verdon, dans les différents sites archéologiques.
Donc vous êtes mis en harmonie avec le musée, évidemment.
Voilà, j'ai collé à l'actualité et au lieu.
Comment est-ce que vous êtes venu à la poterie, à la céramique ?
Oula, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mes grands-parents qui me gardaient pendant les vacances d'été, mon grand-père cultivait son jardin et lorsqu'il trouvait des petites boules de terre glaise, il me les apportait et je confectionnais des petits chevaux, des cendriers, quelques objets divers et variés. Et après, donc, c'est ressorti, il en reste toujours quelque chose et c'est ressorti vers la quarantaine. Et donc, c'est une reconversion professionnelle.
Vous étiez dans quel domaine avant ?
J'étais dans... C'était une histoire de pâte, mais ce n'était pas la pâte argile, c'était la pâte béton. J'étais dans le béton industriel, le dallage, le sol industriel.
Donc il y a quand même un petit lien très, très léger, mais bon, léger en tout cas pour la céramique, beaucoup moins pour le béton. Vous cultivez, vous avez dit, le safran, c'est une diversification qui est une diversification plaisir ou bien nécessaire ?
Je dirais les deux à la fois, puisque c'est une culture qui demande beaucoup de temps, de patience et de minutie. Donc il faut être à la fois très passionné et puis bon, c'est nécessaire pour en tant que complément de revenu par rapport à la céramique.
Et vous l'avez dit aussi, il y a des périodes qui peuvent se chevaucher, justement se succéder de manière assez intéressante.
Oui, elles se succèdent, mais... Par expérience, on s'aperçoit que de temps en temps, l'une grimpe sur l'autre et des fois, c'est compliqué à mener de front les deux activités.
Comment est-ce que vous vendez votre safran ?
Alors, en direct, sur les foires, sur les marchés, là, je n'ai pas de point de vente fixe. Donc, c'est en direct. J'ai un petit coin safran en bout de stand, puisque ça ne prend pas beaucoup de place. Donc les gens peuvent découvrir mes produits céramiques et puis le safran et plus quelques produits dérivés, notamment des moutardes, du sirop de canne, du vinaigre et des confitures et du miel également, des préparations que je réalise avec du safran.
Les clients sont surpris de cette diversification sur votre étal ?
Pas vraiment. Au début, bon, le safran, c'était nouveau, puisqu'on nous étions qu'une poignée de passionnés, de producteurs à faire du safran. Maintenant, beaucoup de personnes se mettent au safran, donc c'est plus une surprise pour les gens, mais bon, ils trouvent que l'association Safran Poterie, finalement, ça va bien. Et puis je réalise des fleurs de safran sur mes poteries, donc l'un dans l'autre.
Mêler à la fois l'utile et l'agréable, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est une bonne chose. Et donc, on peut vous retrouver généralement sur les marchés, hein, vous l'avez dit, de la région, et vos boutiques à Quinçon. Guy Mombel, vous êtes aussi membre du comité de pilotage des artisans sans vitrine. Pourquoi cette structure et qui regroupe-t-elle ?
Alors, cette structure, elle est née il y a quelques décennies par rapport à une volonté de regrouper des gens qui, effectivement, fabriquaient et vendaient leurs produits pour se différencier et se démarquer de toute la revente que l'on peut trouver sur les marchés hebdomadaires, par exemple. Donc, le circuit a été mis en place avec de vrais artisans et de vrais producteurs. Donc sur le circuit, nous sommes parfois tout seuls, soit artisans d'un côté, soit producteurs, et souvent, de plus en plus souvent, nous sommes regroupés sur les manifestations.
Et donc comment ça se passe ? Vous avez un stand particulier, un logo particulier ?
Alors chaque entité, artisan sans vitrine d'un côté et saveurs des Alpes du Sud, ont leur propre affichage, leur propre identité, leur propre logo. Oui.
Et ça représente une force importante entre les artisans, cette structure ?
Oui, c'est très important. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'heure de la mondialisation, je pense que c'est important de faire partie d'un territoire, de vivre sur un territoire et de le faire vivre surtout au travers des circuits courts de la chambre de métier 0405.
Alors Noël Dupas, vous êtes, je suppose, aussi très attentive à Artisans sans vitrine à la chambre de métier.
Oui, puisque je suis référente au niveau de tout ce qui est circuit court au niveau des métiers. Donc les gens viennent vers moi et nous avons organisé en 2021 90 marchés dans le 04 et dans le 05. Et ça fait vivre quand même, mine de rien, 130 entreprises sur ces circuits courts.
Dans votre activité quotidienne, ça représente combien ? 10%, 20% de votre activité ?
Alors, ça représente entre 60 et 70% de mon activité. Ouais. Puisque nous organisons ces circuits courts qui démarrent en général au mois d'avril et qui se terminent au mois de novembre. Et la grosse période, c'est juillet-août. Un marché tous les jours. Donc, il y a tout un travail fait en amont, bien sûr.
Avec du personnel de la chambre de métier ou des artisans ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est moi qui suis référente à la chambre de métier. Et après, on a un comité de pilotage de professionnels, autant en alimentaire qu'en artisan d'art, que je réunis et qui valide les dossiers d'inscription.
Et dans lequel siège Guy Mombel, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Alors, il y a aussi une boutique qui est marquée, c'est le troisième reportage, marquée par l'authenticité, c'est en centre-ville de Manosque, figurez-vous. C'est un duo fusionnel qui la tient, et pour cause, Myriam et Noëlla Olmeta sont sœurs. Au décès de leur père, Michel, elles ont repris son activité de cordonnier, lui adjoignant un magasin proposant des articles hommes et femmes qui vont au-delà du cuir. Jouets en bois, chaussons et chaussettes, bonnets, bérets, chapeaux, sacs et autres ceintures sont agencés avec goût. Outre la vente, les deux sœurs excellent à réparer des chaussures en cuir et même des baskets, sacs ou encore pochettes et portefeuilles. Cordonnière, un métier du passé peut-être, mais bien présent à Manosque grâce aux souriantes sœurs Olmeta. Noëlla et Myriam, vous êtes installées rue Guillaume-Pierre à Manosque et vous êtes toutes les deux, on peut le dire, cordonnières.
C'est ça.
Oui,
nous sommes cordonnières. Exactement. Depuis 12 ans, on a repris l'affaire familiale. Ça fait 4 générations qu'on est établies, pas que sur Manosque, mais bon, 4 générations en tous les cas qu'on est cordonnières.
Et vous utilisez évidemment le cuir donc pour les chaussures. Vous réparez énormément de chaussures en cuir, mais aussi des vestes et également des sacs.
Oui, tout ce qui est sac, veste, chaussures, ceinture,
fermeture, maroquinerie en général. On répare, il n'y a pas de règle, on répare absolument tout ce qui est lié au cuir.
En fait, les clients viennent vous voir parce qu'ils sont attachés à l'objet en cuir qu'ils ont, par exemple un sac, et ils veulent lui redonner une deuxième vie. Et c'est vous qui allez faire le travail de chirurgie.
Exactement.
Docteur de la chaussure.
On est beaucoup dans l'affectif. Quand on achète une paire de chaussures, c'est pas comme quand on achète un habit. Un habit, on l'achète, ça peut ne pas coûter très cher. C'est pas comme une paire de chaussures, on se le réfléchit à plusieurs fois. Ensuite, il y a plusieurs objets qui sont d'époque, c'est affectif. L'autre jour, il y a une vieille dame qui m'a apporté deux portefeuilles qui appartenaient à sa maman. Donc, il y avait 50 coutures. Est-ce que ça valait vraiment le coup de le refaire? Je sais pas. Mais en tous les cas, ben voilà, on travaille dans ce milieu-là. On est beaucoup dans l'affectif, c'est vrai.
Beaucoup dans l'affectif, beaucoup dans l'accueil également du client. Vous avez d'ailleurs une boutique qui sert un petit peu d'appelant pour votre activité. C'est une boutique où on trouve beaucoup de choses très différentes.
Oui, nous faisons de l'accessoire pour hommes et femmes.
Des classiques, on essaie de travailler avec des marques françaises, européennes. On fait des classiques, on fait du petit parapluie pour enfants en bois, on fait de la bretelle, de la canne, on fait des espadrilles l'été, de la charentaise l'hiver. On fait un petit peu tous les grands classiques qui ne nous lâchent pas.
Alors on remarque quand on fait un tour dans votre boutique qu'il y a du matériau authentique et qu'il y a vraiment une qualité des produits. Comment est-ce que vous les choisissez, les produits que vous revendez ensuite ?
Au coup de cœur, je pense, hein, oui. Puisque souvent on va en fait dans certaines villes, on promène, on voit des marques qui nous plaisent, qui peuvent nous correspondre, et de là on part
dessus, oui. Et puis c'est des classiques, par exemple, ben, ça fait quelques années qu'on cherche de beaux parapluies, ben, on les trouve pas, alors on les fait pas. on attend de tomber sur la bonne marque qui respecte la qualité, qui n'est pas non plus très excessive et que les gens peuvent se payer. On est toujours entre les deux, on essaye de jongler qualité, bon savoir-faire et où on peut se le payer quand même.
Alors effectivement, vous favorisez le Made in France, sauf... Oui. Vous avez juste une petite exception, expliquez-moi.
Alors, ça va être nos chapeaux. Nos chapeaux sont faits aux États-Unis. On travaille avec une marque américaine, c'est Bailey. Et là, c'est un vrai coup de cœur. On a deux collections par an. C'est vraiment très chouette. Ce sont de très jolis chapeaux, des Panama, faits pour l'été, de beaux feutres traditionnellement pour l'hiver. Et c'est vrai que là, on les fait venir de loin.
Ouais. Et il n'y a pas que des chapeaux américains chez vous?
Non, nous travaillons aussi avec Mademoiselle Lolaire. C'est une entreprise, une vieille entreprise française.
Qui 1830. Sent... Si vous regardez sur Wikipédia, c'est carrément Lolaire qui ont pratiquement fabriqué le béret français. C'est une marque qui a eu la vie dure il y a quelques années, puis ils sont arrivés à se réinventer. Ils sont passés dans le béret de luxe, où on les voit beaucoup défiler sur les podiums avec de grands couturiers. Et l'entreprise perdure depuis 1830, je crois.
Ils ne sont pas non plus super excessifs. Hein. Enfin, il y a des jolis...
Non, c'est le béret en laine.
Il y en a des collections luxe, mais après, il y en a en 100% laine.
C'est le béret français.
Le vrai béret français, fait au Laurent Sainte-Marie.
Votre boutique est installée rue Guillaume-Pierre à Manosque. Est-ce que c'est un plus d'être dans le centre-ville à Manosque?
Ben oui, on adore le centre-ville, on préfère cette partie de Manosque, ça fait partie de nos valeurs, l'échange avec les gens qui marchent dans la rue.
On a ton boulanger à côté, les bars qui sont ouverts,
c'est la vraie vie, ça se fait pas en voiture.
C'est pas comme quand t'es sur un parking, c'est vrai que par exemple, je vais pas critiquer le forum en bas ou quoi, mais c'est vrai que tu arrives, voilà, tu vois des voitures, machin, etc., là t'as quand même une jolie architecture, c'est plus sympa quoi, hein, c'est un plus joli cadre.
Le rapport avec les gens, on voit des personnes âgées, on voit tout le monde, c'est le centre de Manosque, quoi. C'est très agréable de vivre dans le centre de Manosque.
Myriam et Noëlla Olmeta, une visite s'impose si vous ne connaissez pas encore cette boutique rue Guillaume-Pierre à Manosque. On arrive à la fin de notre émission et on va demander un mot de conclusion quand même à nos invités. Guy Mombel, qu'est-ce que ça vous inspire à la fois cette émission et puis ce panel qu'on a fait particulier sur l'artisanat et l'artisanat d'art?
Ça m'inspire beaucoup de choses, notamment... Le fait que c'est super de parler de l'artisanat, de communiquer sur les savoir-faire, sur les réalisations. Et donc, nous invitons nos futurs potentiels clients à venir nous rejoindre sur Notamment la dernière opération de l'année, le marché de Noël à Moustier dimanche prochain, dimanche 19 décembre. Et puis pour la saison 2022, sur les marchés hebdomadaires et sur le circuit, les circuits courts artisans sans vitrine et saveurs des Alpes du Sud.
Donc les rendez-vous sont pris et permettez-moi d'ajouter que c'est un secteur qui ne délocalise pas. Et donc ça c'est important aussi, vous apportez de la richesse sur le territoire et c'est une excellente chose. Noël Dupas, la chambre des métiers est évidemment à l'écoute des artisans et particulièrement des artisans d'art.
Oui, on est à l'écoute et puis moi j'invite tous les créateurs qui veulent créer quelque chose de leur main de venir à la chambre de métiers, on les accompagnera et surtout on peut leur proposer un panel de circuits pour qu'ils puissent se faire connaître, dont les circuits courts, le salon des arts et gourmandises sur Manosque. Nous avons la boutique Arti Boutique aussi que la chambre régionale a mis en place et puis peut-être d'autres événements comme des boutiques éphémères dans certaines communes qu'on va essayer de mettre en place en 2022.
Bref, vous êtes là pour donner un coup de pouce aussi à tous les créateurs et les aider dans le maintien de leur activité.
C'est ça.
On peut donner les coordonnées de la chambre de métiers.
Alors la chambre de métiers, donc vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, donc c'est en minuscule, c'est n.dupas-caselli@cmar-paca.fr.
Et bien sûr, vous pouvez vous rendre à la chambre de métiers. Vous avez aussi un CFA.
Au CFA, un campus à Digne, bien sûr, 15 rue Madonna.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été mes invités. Je vous souhaite de bonnes fêtes, puisqu'on est en pleine période de fêtes. Et puis surtout, pour vous, Guy, de bonnes affaires aussi, sachant que le client sera peut-être intéressé d'acheter vos réalisations et qui sait, peut-être aussi votre safran, puisque bon, il y a aussi des tables de Noël qu'il faut un petit peu agrémenter. Je remercie aussi Olivier Mouly qui nous a aidés pour les reportages et pour la régie de cette émission. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, normalement. Merci Olivier, à bientôt.
À bientôt François, en 2022.